Bonjour à toutes et à tous qui nous ont suivis quand même, malgré le déplacement et le report d'une fois de cette conférence qui était déjà prévue avant les vacances. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Sophie Varnisch aujourd'hui dans ce cadre des conférences organisées avec Mendes France et l'université ou l'UFR Lettres et Langues, dans un esprit d'ouverture en fait, ouvert à tout public. Donc juste quelques mots, moi je vais vous passer la parole très rapidement. Donc Sophie Varnisch est historienne et spécialiste de la Révolution française et chercheuse au CNRS. Il y a de nombreuses publications sur la Révolution française, évidemment. Donc plus ancien, l'impossible citoyen à l'étranger dans le discours de la Révolution française, la liberté ou la mort, essai sur la terreur et le terrorisme. Et récemment, la Révolution n'est pas un mythe. Et ce qui m'a personnellement très intéressé, c'est un recueil de travaux sur 25 ans. Ça s'appelle le radeau démocratique, chronique des temps incertains. Donc ça montre aussi déjà que ces travaux ne sont pas cantonnés dans la période de la Révolution française, mais il y a une actualisation constante en fait de ce savoir, de ces connaissances par rapport à notre actualité. Brûlante. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, merci à vous de vous être déplacés. J'ai l'impression que le micro est trop fort parce qu'on n'est pas très nombreux. J'ai l'impression aussi que, à la fois, ça arrive à point nommé et en même temps, quand c'est à point nommé et qu'il s'agit de révolution ou de mouvement social, c'est toujours décalé. Et donc, je voulais commencer par une image qui est en fait ce qu'on appelle un papillon chez les graphistes, qui est un papillon fait par les graphistes Forme Vive en lien avec une université populaire de quartier qui s'appelle UP18, Nous avons encore besoin des humanités. Et ce papillon avait été réalisé à l'occasion d'un cycle qui s'appelait Les embarras de la démocratie. Et donc les embarras de la démocratie, c'est-à-dire les difficultés qu'on peut rencontrer quand on prétend à la démocratie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et puis aussi l'affirmation que quand il s'agit de démocratie, il est peut-être très difficile de vouloir tenir un discours, alors ici bien sûr d'expert, mais je dirais, il y a marqué à la fois expert, spécialiste, mais même savant, et je dirais que du coup, toute position nous oblige à revenir d'une manière plus humble quand il s'agit de démocratie à une position de citoyen. Mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un citoyen qui est habité par ses activités habituelles de savant. Voilà. Il n'empêche que, de ce point de vue-là, la forme de la tribune, que je n'ai pas transformée, je ne me suis pas mis devant avec une chaise, etc., parce que je voulais manipuler des choses... En tant que telle, elle est aussi dérisoire que cette position d'expert. Mais on va essayer de la subvertir, puisque le propre de la démocratie, c'est d'ouvrir des moments délibératifs et donc de pouvoir subvertir les positions. Et je pense que ça permet d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire être démocrate? Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi on peut considérer aujourd'hui, puisque c'est le titre que j'avais donné au départ, mais comme je suis en train de travailler sur ces enjeux-là, ça a changé plein de fois, je ne sais plus ce qui a été gardé. Mais je crois que j'avais donné au début menace sur l'éthos démocratique, ensuite la démocratie prise en étau, et ensuite la démocratie est-elle redevenue une utopie? Et donc vous voyez, on va essayer de naviguer là-dedans. Alors, l'éthos démocratique, ça paraît être pour le coup bien savant, l'éthos, mais il s'agit de dire, à travers le réinvestissement de ce terme, qu'il s'agit bien de ne pas considérer la démocratie comme un régime politique, mais bien comme une forme de vie. Une forme de vie, c'est-à-dire une capacité à produire, en fait, un certain type d'art de vivre. Et ça serait un art de vivre qui serait spécifique par sa volonté de tisser ensemble la plus belle cité possible, celle où l'on vivrait bien, où chacun pourrait chercher sa félicité. Et pour ce faire, il faut doter chaque membre du démos de la possibilité de prendre part au pouvoir grâce à des institutions qui déconstruisent une confiscation effective de ce pouvoir par ceux qu'on appelle au cours de l'histoire les puissants, les aristocrates, les riches, les grandes familles. et faire en sorte qu'on reconnaisse l'égalité de tous les citoyens, ce qu'on appelle donc en Grèce ancienne l'isonomie, et simplement l'égalité dans la période révolutionnaire. Toujours avec les graphistes Formes Vives, ils avaient produit cette image dans un cycle sur la Révolution. Cette question de la nécessité de guillotiner l'argent roi, eh bien, en fait, c'est bien la question de savoir comment on va fabriquer le combat, et le combat justement avec les puissants, les aristocrates, les riches, etc., de manière à peut-être ne pas avoir à en passer par la mise à mort. Et donc le propre de la démocratie, c'est justement de ne pas considérer comme une évidence le fait de tuer l'ennemi ou de tuer l'adversaire, mais au contraire de considérer ça comme un échec. Et donc d'avoir une volonté constante en démocratie de contrôle de la cruauté. Et il s'agit bien effectivement de fabriquer un combat qui va être capable de nommer le tort, qui est toujours présent, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention dans aucune des démocraties effectives de l'histoire, et elles sont malgré tout rares, mais récurrentes, il n'y a jamais la prétention de détruire complètement l'inégalité sociale. Par contre, il y a l'affirmation qu'il y a la possibilité de mener un combat où chacun reste sur le qui-vive pour faire en sorte que ceux qui, dans une certaine mesure, pourraient avoir le rapport de force en leur faveur parce qu'ils sont aristocrates, puissants, riches, etc., eh bien, ne puissent plus l'avoir et qu'ils ne puissent plus ravir aux humbles l'outrecuidance qui consiste à affirmer « nous sommes tous égaux ». Les révolutionnaires français l'ont dit dans l'ironie des ritournelles. Il faut raccourcir les géants et rendre les petits plus grands, tous à la même hauteur, voilà le vrai bonheur. Se raccourcir les géants et rendre les petits plus grands, évidemment, on peut le prendre au premier degré, on peut évidemment le prendre dans la nécessité d'imposer aux grands de ne plus se sentir aussi grands qu'ils le croient, et puis aider ceux qui se pensent trop humbles pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir participer, à effectivement se sentir des égaux et se sentir autorisés. Et donc c'est ce combat qui doit être constant et qui en même temps doit faire l'économie de la cruauté. Le fait d'affirmer « nous sommes le peuple souverain, nos propres gouvernants, nous disposons du droit de résistance à l'oppression » est quelque chose qui à chaque fois fait irruption d'une manière qui trouble quelque chose qui a été naturalisé. Et donc le propre de la démocratie, quels que soient les lieux où elle s'exprime, c'est toujours de dénaturaliser, de faire en sorte que ce qu'on considère comme naturel, eh bien, soit à nouveau présenté comme une construction, et comme une construction qui, du coup, peut être écartée au profit d'une autre construction. Et donc la démocratie, elle n'est pas un naturalisme, elle est nécessairement un artificialisme. C'est un art politique. C'est un art social, mais ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc on ne peut pas attendre que les gens soient démocrates naturellement. Ils ne sont pas démocrates naturellement, il y faut toutes sortes d'outils qui leur permettent d'étayer leur désir d'égalité si ce désir est déjà présent. Le désir d'égalité n'est pas quelque chose de naturel non plus. On souhaite maintenir son rang dans n'importe quelle petite fratrie familiale. L'aîné reste l'aîné, même si on essaye de distribuer les fraises de manière équitable. Mais l'équité n'est pas l'égalité, et les positions de chacun sont maintenues tout au long de la vie, et il y a toute une série de choses qui, effectivement, supposent une artificialité pour ramener, même au cœur de la famille, eh bien, effectivement, un peu d'égalité. Cette artificialité, elle est pensée à l'intérieur de la famille. Elle est pensée ou elle est récusée. Il y a des pays de droit d'aînesse et des pays de partage. Et effectivement, ce lieu qui est un lieu fondateur de toute société, le lieu de la naissance et le lieu de l'éducation, eh bien, c'est une institution civile, hein, au sens strict, une institution civile qui n'a à voir ni avec l'armée ni avec le gouvernement, et qui est le lieu de la formation à la possible ou impossible démocratie. Et donc, si on cherche à s'interroger aujourd'hui sur la menace sur l'éthos démocratique, eh bien, il faudra faire une part importante à ce qui la menace du côté, effectivement, de l'éducation, que ce soit l'éducation reçue dans les familles ou que ce soit l'éducation telle qu'elle peut être dispensée dans les espaces qui sont les espaces scolaires et universitaires. Évidemment, les espaces universitaires, on est au cœur de ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette salle Pierre Mendès France et pas à l'université. Je crois qu'elle est aujourd'hui bloquée de par les étudiants d'un côté, mais surtout aussi de par de l'administration qui ne souhaite pas que quelque chose puisse se jouer dans les locaux. Et je dirais que le blocage n'est peut-être pas une très bonne solution du côté étudiant, mais quand c'est bloqué par le pouvoir universitaire, on se rend compte à quel point c'est un mauvais outil. En tout cas, un outil qui n'est pas pleinement satisfaisant. Ce qui me paraît important, c'est que quand on bloque les lieux, eh bien, on ne permet pas au conflit de se déployer. Et c'est en cela que je me suis permise de dire que c'était un mauvais outil. Ça ne permet pas au conflit de se déployer, c'est intéressant pour ceux qui ont le pouvoir, c'est beaucoup moins intéressant pour ceux qui cherchent à mettre en question le pouvoir. Car le propre de l'éthos démocratique, c'est d'accepter que quelque chose soit incertain, d'accepter qu'on ne sache pas exactement quel est le programme, on ne sait pas ce que sera le lendemain. Mais par contre, on a accepté d'un commun accord, soit tacite, soit explicite, eh bien, que certains principes soient constamment préservés. Et pour ce qui concerne la démocratie grecque, les principes préservés, c'est donc cette fameuse isonomie, cette égalité devant la loi, donc qui n'a pas à voir avec l'égalité sociale, qui a à voir avec la possibilité de prendre part au pouvoir et des institutions extrêmement complexes. Du coup, le propre de la cité démocratique, c'est de maintenir le conflit ouvert et incertain. Et tant qu'on n'a pas des moyens pour maintenir ce conflit ouvert et incertain, eh bien on peut être sûr eh bien, qu'il n'y aura pas de véritable démocratie, et on pourra être sûr qu'il y aura un certain nombre de gens qui expliqueront que l'harmonie démocratique, c'est l'absence de conflit. Or, dans toute l'histoire de la démocratie, ce qui produit l'harmonie, c'est le conflit. Alors, comment les Grecs ont-ils élaboré l'idée que ce qui produisait l'harmonie, c'était le conflit? Le véritable travail politique, c'est le conflit. Et de manière à ne pas sombrer dans la fameuse cruauté que j'évoquais, eh bien, il s'agit d'un conflit qui va s'élaborer par l'espace délibératif. Chez les Grecs du 5e siècle, avant Jésus-Christ, eh bien, l'harmonie n'est jamais le calme, mais l'agitation permanente. L'agitation permanente qui évite la guerre civile. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a une vraie question à se poser aujourd'hui, à voir revenir cette notion de guerre civile comme pouvant être équivalente à la notion de révolution. Non, l'agitation révolutionnaire, elle peut produire en réaction la guerre civile, parce qu'effectivement, il va y avoir tous ceux qui sont contre la révolution, et révolution contre révolution, ça peut produire de la guerre civile. Mais l'agitation révolutionnaire, eh bien, dans une certaine mesure, en tant qu'agitation permanente, c'est ce qui permet d'éviter la guerre civile, parce qu'à ce moment-là, il y a constamment, effectivement, possibilité de mélanger les différents groupes sociaux, de mélanger les fameux grands et les fameux petits, ceux qui prennent la parole, ceux qui ne la prennent pas, de mélanger les lieux sociaux, de mélanger les origines ethniques, et donc de faire en sorte que cette agitation permet de ne plus diviser en communauté. C'est pour ça que je vous donne ce troisième papillon. Par politique, je n'entends pas les intrigues de cour, ni les luttes entre groupes sociaux qui défendent leurs intérêts et leurs positions, mais une activité collective dont l'objet est l'institution de la société en tant que telle. Bon. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de dire quels sont les intérêts qu'on appelle corporatistes d'un côté face à d'autres intérêts corporatistes ou face à ce qui serait l'intérêt général. Il s'agit d'affirmer qu'il ne peut y avoir d'espace délibératif démocratique que quand on est capable de constamment se mélanger. Aujourd'hui, on est très peu mélangé. Beaucoup d'enseignants, quelques étudiants, une conférencière CNRS, on est dans l'entre-soi absolu, en fait. Hein. Bon, donc c'est à la fois un espace qui souhaite être ouvert, mais qui ne parvient pas à le faire. Ce n'est pas du tout une attaque de ce lieu. C'est la configuration actuelle. Nous disposons de très peu d'espaces démocratiques, non pas parce qu'ils n'ont pas l'ambition d'ouvrir de tels lieux, mais parce qu'il ne suffit pas de décider ou de décréter qu'on ouvre un lieu qui serait une agora pour obtenir une agora. obtenir une agora, ça suppose une acculturation démocratique. Et aujourd'hui, je dirais que l'acculturation qui est la nôtre est antidémocratique. Donc c'est très difficile de pouvoir fabriquer ces agora, parce qu'elles ne peuvent pas se fabriquer sans arrière-plan, disait-on à midi avec Martin. Donc la question de l'arrière-plan, c'est ce fameux arrière-plan d'éducation, des formations discursives, des formations cinématographiques aujourd'hui, mais on peut les inclure dans une formation discursive, qui effectivement donne cette ambition. Alors dans la conception grecque qu'on appelle héraclitéenne, l'harmonie donc vient bien du mélange constamment agité, et l'imaginaire qui est donné, c'est celui de ce qu'on appelle le koukéon. Ce koukéon, c'est le breuvage des mystères. Et ce breuvage des mystères, il a la particularité d'être fabriqué à la fois avec des particules de céréales et des liquides. Et donc, si on n'agite pas complètement ce breuvage, eh bien, les particules se déposent au fond et au-dessus, on a le liquide. À ce moment-là, on a quelque chose qui se divise en deux, le solide et le liquide. Et cette figure du solide et du liquide, eh bien, c'est la figure donc du 2, alors que la société, en tant qu'elle s'institue en tant que telle, doit être une figure du 1. Non pas parce que ça serait le 1 solide où il n'y aurait plus de jeu, mais parce que le jeu incessant produirait cette unité. Et donc le 1, ce n'est pas nécessairement la position unaire des psychanalystes. Ça peut être, enfin, si vous la connaissez, sinon on reprendra tout à l'heure, mais dans le discours psychanalytique, je fais juste une petite digression, il y a l'idée que le 1, c'est quand les choses sont compactes et qu'il n'y a pas de jeu entre les individus, mais qui sont identifiés à une seule personne, ou à une seule idéologie, ou à un seul objet, qu'il soit une idéologie, une personne, ou encore autre chose. Après tout, dans les livres pour enfants, on nous explique que certains personnages, avant de tomber vraiment amoureux, peuvent être amoureux d'une pierre. Donc, cette question du lien unaire en tant qu'on serait amoureux de la même chose, ce n'est pas la seule conception de l'unité. L'unité, elle peut être constituée par la capacité des individus incessamment à fabriquer des liens incertains, et que c'est ça qu'on appelle effectivement la démocratie. Si on agite constamment le fameux kukéon, alors à ce moment-là, on a le fameux breuvage qu'on peut boire et qui a sa propriété d'être le breuvage qui permet d'accéder au mystère. Mais si on ne l'agite plus, alors il y a cette division en deux parties, l'une contre l'autre, et faute d'un débat constant sur le juste et sur l'injuste dans la société, eh bien, la véritable concorde ne peut pas advenir, car elle n'a rien de statique. Et c'est alors la possibilité de voir advenir, à cause de cette division en deux, la fameuse guerre civile, ce que Nicole Laureau a souligné en tant que stasis. Donc cette guerre civile, eh bien, c'est ce qui, finalement, est l'échec de la démocratie. Voilà. Quand il y a guerre civile, c'est que la démocratie n'a pas pu se déployer en conflit ouvert. Et je pense que le blocage, eh bien, ce n'est pas une figure qui laisse se déployer le conflit ouvert, même si les intentions sont bonnes, la réalisation, en général, produit des situations qui viennent contrarier les principes démocratiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conflit démocratique ? D'abord, celui qui porte, effectivement, sur la question de l'égalité ou du tort, de l'injustice, qui rend visible le caractère contingent de l'ordre, ce que j'expliquais, dénaturalisation. En quelque sorte, qui affirme qu'il n'y a aucune institution immuable, et certainement pas celle de la Ve République, donc il y a sans doute quelque chose à jouer pour nous, puisque j'avais indiqué en France. Or, même quand ces institutions sont inégalitaires, il y a de la politique, parce qu'il y a toujours déjà, du fait de notre qualité humaine, de l'égalité et de la liberté. Non pas parce qu'on serait naturellement égaux et libres, mais parce qu'on dispose d'une égalité qui est l'hypothèse d'égalité fondée sur le fait qu'on partage le fait d'être des êtres parlants. Et donc, si on fait usage de la parole, eh bien, dans cet usage de la parole, quelque chose s'actualise de l'hypothèse de l'égalité. Et donc, ce n'est pas une nature humaine, c'est une possibilité humaine. Et cette possibilité, c'est ce qui fonde effectivement à la fois l'incertitude et la certitude qu'il y a de la démocratie possible. Donc, nous sommes tous des êtres parlants. Cela ne veut pas dire qu'on va se comprendre spontanément. Non, on ne va pas se comprendre du tout. Et c'est tout à fait intéressant de savoir qu'on ne va pas se comprendre, parce que ce qui est important, c'est de rendre visibles les lieux d'injustice, et pas de se comprendre. Parce qu'après tout, se comprendre, bah, c'est finalement la fonction presque divine. Et donc, ce qu'il faut, c'est rendre visible le tort qui est porté soit au sentiment d'égalité, soit au sentiment de justice, et faire naître, à ce moment-là, un sujet qui est ce fameux toute la communauté, l'institution de la société en tant que telle, en tant qu'elle tend vers plus de justice. Je peux dire qu'aujourd'hui, s'il y a des menaces sur l'éthos démocratique, c'est qu'il y a une conscience des injustices. On l'a sur un mode, je dirais, banalement sondagier, hein, 50% des gens qui trouvent qu'effectivement les réformes qui sont proposées ne sont pas bonnes, que ce n'est pas très satisfaisant, etc., mais très peu prêts à se battre et à considérer qu'elles ne doivent pas arriver et qu'elles ne seront pas mises en application. Donc là, il y a le renoncement à l'idée qu'on peut aller plus loin dans le progrès de la justice et même une soumission à l'idée que la justice va régresser. Donc on est dans une situation où, quand je parle de menace sur l'éthos démocratique, c'est qu'on a d'une manière concomitante eh bien, quelque chose qui reste intériorisé, parce qu'un pays comme la France a quand même une histoire révolutionnaire forte et une culture qu'on appelait gréco-latine et qu'on appelle maintenant judéo-chrétienne forte. Bon, j'insiste sur le gréco-latin versus judéo-chrétien parce que ça a à voir avec la position donnée aujourd'hui aux faits religieux par rapport aux faits de culture ou aux faits de pensée. Et donc il y a quelque chose où eh bien, ce n'est pas si simple que ça d'éradiquer cette intuition normative du fait démocratique. Mais que malgré tout, eh bien, on voit qu'il y a toute une partie de la société qui a abandonné en fait l'ambition démocratique et l'ambition de l'éthos démocratique. Ça ne s'est pas fait en un jour. Alors, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça se fait en particulier dans les lieux qui permettaient le mélange. Donc les lieux qui permettaient le mélange, c'était par exemple l'institution scolaire. Malgré tout, malgré toutes ces imperfections, malgré toutes les critiques qu'on a pu faire sur l'institution scolaire, elle était le lieu du mélange. À partir du moment où on a des stratifications sociales qui deviennent inscrites géographiquement avec des ségrégations, eh bien, l'institution scolaire ne joue plus le rôle de lieu du mélange. Elle ne permet plus ce mélange. Voire, quand elle est le lieu du mélange, elle est aussi le lieu qui produit l'inverse du mélange avec le recours à l'institution privée. On peut dire qu'aujourd'hui, une des grandes menaces sur l'éthos démocratique intéresse la question scolaire et la question universitaire. Car ce qui se joue aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui est au fondement de la possibilité de fabriquer des démocraties. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ce plan-là. C'est au fondement, pourquoi ? Parce que là, je vais me déplacer du côté de la grande tradition anthropologique. Dans la grande tradition anthropologique de quelqu'un comme Marcel Mauss, eh bien, il y a la description de ce que sont les échanges qu'il appelle les échanges Kula et les échanges Guimali. Les échanges Kula sont les échanges qui sont les échanges festifs et sacrés. Et les échanges Guimali sont les échanges qu'on pourrait nous appeler économiques, où il y a des relations qui sont âpres entre les gens pour obtenir le meilleur prix quand on est le vendeur, et aussi le meilleur prix, mais ce n'est pas le même quand on est l'acheteur. Donc des relations âpres, alors que l'échange Kula, c'est les relations, au contraire, festives. Et ce qui fonde la possibilité de vivre en commun, ce sont les échanges Kula, ceux qui permettent de faire la fête et d'échanger des objets sacrés sur le mode de la dépense qui n'est pas comptable. C'est une dépense infinie. Et donc ces moments festifs et d'échanges infinis sont ceux qui permettent de reconnaître l'autre d'une manière réciproque comme un égal, comme quelqu'un qui dispose de la même dignité, comme quelqu'un qui s'humanise de la même manière. Et il se trouve que dans les sociétés qu'on appelle démocratiques, et en particulier dans les sociétés modernes démocratiques, le rôle du savoir, le rôle de la culture et de l'éducation, c'est d'occuper cette place de l'échange sacré Kula. Et que c'est pour cette raison que depuis quand même très longtemps maintenant, on réclame que cette éducation soit gratuite. La gratuité, ce n'est pas un enjeu économique pour l'éducation, c'est un enjeu de principe. Si on met l'éducation au cœur de la société démocratique comme fondement sacré, il faut qu'elle soit gratuite, car sacré et gratuit, c'est presque synonyme d'un point de vue anthropologique. Et donc quand on touche à la gratuité scolaire ou universitaire, on touche au fondement sacré des sociétés démocratiques. c'est pas quelque chose qui se fait en un jour non plus. On se souvient tous, pour ceux qui ont un certain âge, mais ici il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent que s'en souvenir, mais les autres, on leur a peut-être transmis. Mais dans les années, disons, de 1993 à aujourd'hui, on n'a pas cessé d'avoir des mouvements sociaux sur cet enjeu-là. Le premier, c'était sans doute en 1993, autour de ce qu'on appelait le CIP, qui était en fait la manière dont on réinstallait la possibilité d'avoir des apprentis un peu exploités dans un cadre scolaire. Bon. Ensuite, il y a eu toute une série de choses, on va aller rapidement, mais mettons que la loi LRU, le traité de Lisbonne et les suites de tout ça ont produit en Europe toute une série de mouvements, en Grande-Bretagne, en France, beaucoup de débats, beaucoup de choses pour expliquer qu'il ne fallait pas s'aligner sur le classement de Shanghai, qui était un classement en fait qui ne tenait pas compte d'un certain nombre de variables, mais surtout qui ne tenait pas compte du fait que le modèle européen n'avait pas encore transformé l'université en marchandise. Et que classer les universités, c'était affirmer qu'il y avait la possibilité de choisir la meilleure marchandise. Certes, on avait déjà commencé à classer les lycées en France, et donc vous voyez que les choses ne sont jamais univoques. Elles sont tout le temps dans cette plurivocité. Mais cette plurivocité, ce n'est pas nécessairement mauvais si on arrive à en débattre vraiment. Toujours est-il qu'en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, dans des tas d'endroits, des grèves ont secoué les universités pour différentes raisons. Mais aussi en Amérique latine, en particulier au Chili, en Amérique du Nord, en particulier au Canada, au Québec. Et dans tous les cas, c'était au nom du pacte démocratique. Et ça s'est constamment accompagné d'une volonté de constituante. C'est-à-dire quand vous observez les slogans qui ont été faits, en particulier au Chili et à Montréal, il s'agissait à chaque fois de rappeler que toucher au droit universitaire et rendre l'accès à l'université de plus en plus difficile, c'était une manière de rompre le pacte démocratique, celui de la Révolution tranquille pour ce qui concerne le Québec et celui de la fin de la période Pinochet pour ce qui concerne le Chili. En ce qui nous concerne, il y a quelque chose qui est complètement latent. Et personne n'explicite qu'il y a là, pas simplement un enjeu universitaire, je dirais, de corporation universitaire, à la fois enseignante et étudiante, mais un enjeu qui a à voir avec la rupture d'un pacte, qui est le pacte, en fait, de l'après-guerre 1945. Donc, en 1945, il y a un pacte, et c'est ce pacte qui est rompu. Il me semble que là, il y a quelque chose qui mérite une attention soutenue sur un mode qui... Il ne s'agit pas de monter en généralité, mais il s'agit de prendre conscience que toucher à l'éducation, ce n'est pas simplement toucher à un corps, c'est toucher au corps social démocratique. Il s'agit là d'un petit panneau très tôt, puisqu'il s'était en février, donc avant que les grèves démarrent ici, mais elles avaient démarré à Toulouse. Et donc il y a quelque chose où certains ont une conscience claire du fait que quand on touche à l'éducation, c'est qu'on est en train de défaire effectivement le pacte démocratique. Mais c'est très marginal. Voilà, ces photos sont assez fortes, enfin je les trouve personnellement assez fortes dans leurs énoncés, mais comme vous pouvez voir, c'est des énoncés qui sont faits sur des petits cartons, donc c'est des formes de peu, et c'est les formes d'un moment politique où nous ne disposons plus d'organisation. Et donc là, il n'y a pas d'organisation. À la fois, on peut s'en réjouir. Ça veut dire que les individus peuvent se prendre en charge, être responsables et être démocrates sans organisation. Mais on peut aussi s'en désoler parce que la fameuse question du rapport de force et de la possibilité d'en imposer aux puissants, eh bien, se défait du fait de l'absence d'organisation et de l'absence d'institution, si vous voulez. Quand je dis organisation, ce n'est pas nécessairement un parti, ce n'est pas nécessairement un syndicat, mais des institutions qui permettent de donner puissance, effectivement, à ces voix qui sont les voix peut-être lucides sur cette rupture du pacte démocratique. Alors, qu'est-ce que c'est le pacte démocratique, par ailleurs? Eh bien, c'est effectivement... le fait de respecter la constitution du peuple souverain en tant qu'il dispose à la fois de la possibilité d'affirmer qu'il y a une égalité politique et qu'il y a des droits protecteurs de cette égalité politique et protecteurs de la vie comme telle en tant qu'elle est un lieu à protéger, non pas avec une forme préétablie, mais afin que chacun puisse chercher sa félicité. C'est du vocabulaire là, de la Révolution française, et je crois que c'est un point extrêmement important. Donc, du coup, la question démocratique, elle n'est pas simplement du côté de cette capacité à se mélanger, à avoir des espaces délibératifs, à avoir une capacité à avoir conscience qu'il faut constamment se battre contre les grands, etc. Elle a besoin de se cristalliser dans des droits. Et ça, c'est la question moderne. Plus, je dirais, elle est moderne au sens où on a quand même tout un mouvement des révolutions modernes qui ont mis au cœur de leurs préoccupations la fabrique de ces droits après une période d'immense arbitraire. C'était aussi la question des Grecs, hein, c'est-à-dire quand Christène fait une constitution, il fabrique du droit. Mais revenons quand même, pour notre proximité, à la question des droits tels qu'ils se mettent en place, donc à ce que Jacques Rancière appelle l'âge démocratique ou l'âge des révolutions démocratiques, où il inscrit l'égalité dans la constitution du peuple souverain, dont la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'après lui, est l'exemple le plus achevé. Je tenais à le dire parce qu'on a tendance à opposer Rancière et personnes qui défendent la Révolution française. Mais c'est complètement faux, hein. C'est une mauvaise lecture de Rancière. Voilà. C'est pas parce que Rancière s'est intéressé au XIXe siècle qu'il n'est pas capable de voir ce qui se joue sur la période moderne et sur la période de la Révolution française. Et donc, à l'intérieur de la Révolution française, la critique d'un mode de confiscation de la représentation n'empêche pas de voir la puissance de la question du droit. Alors, je donne un exemple qui n'est pas dans la déclaration de 89, mais dans celle de 93, qui est l'article 7, donc de la déclaration de 93. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Bon, il me semble que cet article est extrêmement intéressant parce qu'il ne faut pas être grand druide aujourd'hui pour se rendre compte à quel point notre presse ne joue plus son rôle démocratique. C'est-à-dire qu'elle est muselée à un point tel eh bien, qu'on peut nous raconter trois jours après les débuts des combats sur la ZAD que c'est terminé. Ça n'a toujours pas cessé. Ça fait maintenant plus de 15 jours qu'on nous a expliqué que c'était terminé. C'est un exemple. On a toute une série d'événements qui concernent les universités qui ont été tus par notre ministre d'une manière tout à fait renversante, tellement elle peut assurer par son regard, par sa manière d'être, qu'il n'y a que cette université concernée par le mouvement. Évidemment, on sait que c'est faux, mais une fois qu'on sait que c'est faux, on se sent quand même bien démuni pour le faire savoir à ceux qui ne sont pas dans ces lieux universitaires. Donc oui, la presse aujourd'hui, elle est faible. Elle est faible. Je ne sais pas si vous avez regardé les entretiens de notre président avec différents segments de cette presse qui ont été plus ou moins compétents dans leur manière de faire les entretiens. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on nous a fait passer comme une grande avancée la capacité d'Emmanuel Macron à segmenter ses publics, c'est-à-dire à pouvoir s'adresser de manière différente aux différents morceaux de la société. Et je dis morceaux comme pour le Kukéon, hein. On a des morceaux qui se cristallisent et ils ne se parlent plus entre eux, et donc on s'adresse à eux d'une manière spécifique en fonction des émissions. Le droit de s'assembler paisiblement. Chacun sait aujourd'hui que ça n'existe pas en situation où l'état d'urgence est devenu une loi ordinaire et qu'en conséquence, il y a toujours possibilité d'affirmer qu'il y a trouble à l'ordre public, même quand il n'y a pas trouble. On n'a pas attendu Emmanuel Macron pour cela, bien que ce soit lui qui ait quand même mis comme loi ordinaire l'état d'urgence, parce que l'ensemble des manifestations qui se sont déployées en 2016 contre la loi travail ont été des lieux de dérégulation absolue de l'espace public dans les manifestations. Je parle de dérégulation absolue. Et cette dérégulation, elle a une puissance d'agir extrême parce qu'elle permet d'affirmer que ceux qui manifestent sont des criminels du point de vue de la manière dont on met en scène la manifestation du côté du pouvoir public et que ceux qui ne sont pas des criminels n'ont rien à faire là. Et que si vous posez des questions aux policiers, aux gardes mobiles, et que vous êtes simplement en tenue ordinaire, je dirais, de professeur ou de chercheur, enfin voilà, que vous êtes là et que vous dites « mais pourquoi autant de monde, etc. ?» Non, non, mais circuler, ça va être dangereux. Et donc, le lieu de la manifestation, qui devait être paisible, est devenu le lieu du danger. Et ce lieu du danger, c'est aussi le jeu, donc, j'insiste, de la criminalisation de l'espace public en tant qu'il est le lieu de la manifestation des opinions. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre comme ordinaire dans ma génération. Je sais bien qu'il y a eu énormément d'événements violents aussi dans la période de mai 68, ce qu'on appelle les années 68, mais on fait partie quand même, quand on a 50 ans, d'une génération où il y avait eu un apaisement des violences manifestantes et où la manifestation était même devenue une fête un peu bruyante, parfois un peu, je dirais, ordinaire, mais où, effectivement, ce n'était pas un lieu de danger. Hein, c'est-à-dire que dans les années 90, hein, il y a eu d'énormes manifestations sur la question des étrangers. On était content de se retrouver, on n'était pas en danger. Les lycéens, les étudiants, les adultes qui ont manifesté en 2016 étaient en danger et ils étaient dans une ambiance de quasi-guerre civile par toute une mise en scène, y compris sonore. La manière dont on tire aujourd'hui les gaz lacrymogènes a lui-même changé. On tirait des petites grenades qui s'ouvraient sur le sol. On tire désormais avec des machines qui les envoient très loin, qui explosent au-dessus des manifestants et qui les aspergent. C'est quelque chose qui est tout à fait neuf et qui fabrique en lieu et place de cet espace public paisible un quasi-champ de bataille. Je mets quasi quand même, parce qu'évidemment, ce n'est pas des armes qui sont immédiatement létales, mais il y a quand même énormément de cruauté qui s'est déployée. Et vous vous souvenez que j'ai commencé l'intervention, en tout cas dans les premières phrases, que l'un des principes démocratiques, c'est la retenue de la cruauté. Et que cette retenue de la cruauté n'existe plus du côté des pouvoirs publics. Et que cette question de la retenue de la cruauté et de la place de la clémence dans les démocraties, elle n'est pas du côté de ceux qui assaillent, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas contents et qui réclament parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur fait tort. Elle doit être du côté du pouvoir. La clémence, c'est le pouvoir qui doit l'être. La clémence, elle doit s'exercer par le pouvoir. Et ce contrôle de la cruauté, c'est les politiques de clémence, c'est les politiques d'amnistie, et c'est la capacité à avoir transformé, toujours après 1945, le maintien de l'ordre par l'armée en maintien de l'ordre par des compagnies républicaines de sécurité. Évidemment, les CRS, ça sonne mal. Hein, CRS, SS en 68. Mais ça n'empêche que ces compagnies républicaines de sécurité, c'était une manière d'affirmer qu'il ne fallait plus convoquer l'armée parce que l'armée était là pour tuer, qu'elle savait faire et que par contre, maintenir l'ordre, c'était autre chose. Et donc, il ne fallait pas des gens armés, mais des gens capables d'empêcher que les choses se dégradent au fur et à mesure de la manifestation. Aujourd'hui, c'est vraiment un secret pour personne que nombre de manifestations sont devenues violentes, non pas du fait des manifestants, mais du fait de la manière dont le maintien de l'ordre a déstabilisé la manifestation, rendu les choses impossibles, des violences sur les corps, bon, énormément de choses, en particulier en 2016, mais à nouveau en ce moment, avec un discours éhonté de la part des médias et du pouvoir qui parle à son compte de retenue de la violence, alors qu'elle n'est absolument pas retenue, ou en tout cas qu'elle n'est pas retenue comme on pourrait l'attendre d'un pouvoir démocratique. Je ne sais pas ce qui se passe sur la ZAD, je reconnais ne pas y être allée. Ceux qui y sont allés disent que ça se passe sur un mode qui est très violent. Alors, après, il n'y a pas eu de mort, tant mieux, mais quand même, la question de Sivens reste là, au-dessus de nous, dans la mesure où ce mort, Rémi Fraisse, a produit la démonstration de ce que la dérégulation des institutions les plus banales de la démocratie dans le cadre républicain, c'est-à-dire ne pas écouter ce que Jean-Pierre Faye appelait les filtres de liberté, c'est-à-dire les lieux d'expertise pour savoir si le barrage était quelque chose de nécessaire ou pas, si on pouvait trouver d'autres solutions, l'expertise citoyenne en tant qu'il y a une enquête publique qui doit être faite, les relations avec les différents maires des différentes communes concernées, l'ensemble du dispositif a été mis en place et n'a pas été écouté. Et donc là, on voit que la capacité à avoir inventé des institutions était là, puisqu'elles sont là depuis maintenant quand même de nombreuses années dans ce pays, mais qu'on peut les contourner avec vraiment une absence totale de vergogne, et que quand on les a contournées avec une absence totale de vergogne, eh bien, on risque effectivement le déploiement de la cruauté. Et on est dans une telle configuration aujourd'hui à différents titres. Ce qui fait que du côté du droit de s'assembler paisiblement, on peut dire qu'il y a quelque chose qui semble perdu, et qui semble perdu dans les mémoires. C'est-à-dire que les gens les plus jeunes ont le sentiment que ça a toujours été comme ça. Et moi, c'est ce qui m'effraie le plus, d'entendre que ça a toujours été comme ça. Alors que j'ai quand même fait pas mal de manifestations dans ma vie malgré tout, et que c'est quand même la première année en 2016 où j'ai eu peur. Voilà, honnêtement. Et donc je ne crois pas que ça se soit toujours passé comme ça, et je souhaite le dire en direction des plus jeunes. Ça ne s'est pas toujours passé comme ça, et il est souhaitable que ça se passe autrement. Enfin, troisième droit important, le libre exercice des cultes. Le libre exercice des cultes, c'est pas qu'aujourd'hui on ne peut pas exercer librement son culte. La question n'est pas là. Dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées, on peut effectivement prier Dieu comme on le souhaite. Et les lois françaises permettent évidemment la pluralité des exercices du culte et des religions. Mais il y a quelque chose qui s'est grippé dans la capacité à inclure les différents cultes et à reconnaître la valeur des différents cultes, ou à être suffisamment neutre à l'égard des différents cultes pour qu'il n'y ait pas, aujourd'hui, une concurrence des victimes, des minorités des différents cultes. Ça vient juste de s'ouvrir. Vous avez sans doute entendu parler de la pétition qui fait un début de controverse sur l'antisémitisme qui aujourd'hui est en augmentation très nette, qui produit des situations de danger pour les juifs de France qui sont sept fois plus importants que pour d'autres religions comme l'islam, et qui a conduit à alerter un certain nombre de gens sur un mode qui est effectivement un mode de concurrence des communautés. Cette question-là, en fait, elle est liée à l'incapacité à maintenir dans un espace commun l'ensemble des éléments mixtes de ce fameux kukéon qu'il faut agiter. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère comme acceptable d'avoir aussi des ghettos qui sont des ghettos ethniques, que ce soit des ghettos riches ou des ghettos pauvres, eh bien, ça veut dire qu'on a renoncé à la nécessité de pouvoir réellement se côtoyer, et se côtoyer sans danger. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas complètement nouveau. Ce qui est grave, c'est qu'au moment où ça a démarré, les pouvoirs publics ont refusé d'en faire part à l'espace public. En fait, ça a commencé en 97. C'est-à-dire que la capacité à voir que quelque chose s'enrayait dans le système français du côté du respect des différentes religions, ce n'est pas quelque chose de neuf. C'est quelque chose maintenant qui a donc 97-2018. On est sur 20 ans. Donc on est dans une situation où ça fait 20 ans que quelque chose est possible à repérer, qu'on a les outils pour le repérer, qu'on a la possibilité d'alerter l'espace public et qu'on ne le fait pas. Et on ne le fait pas parce qu'on est convaincu que si on le fait, ça va empirer. Il me semble que là, on a quelque chose qui est intéressant à analyser. C'est que ce qui fait reculer la démocratie, c'est la peur d'ouvrir les débats dissensuels, d'ouvrir les questions taboues, d'ouvrir les questions sacrées. Et en 97, on est convaincu que si on explique qu'il y a une remontée nette des actes antisémites violents sur les corps, eh bien qu'au lieu d'enrayer ces actes antisémites violents, on risque de les accélérer. Et c'est donc avec une hypothèse qui ne fait pas confiance à l'espace délibératif et à l'espace public que quelque chose continue à prospérer à bas bruit, puisque la plupart des gens n'en ont pas conscience, ne sont pas au courant. Et qu'aujourd'hui, eh bien, il va y avoir effectivement une très grande violence. Enfin, je veux dire, ça ne fait que s'ouvrir, mais on n'en est qu'au tout début. Mais il va y avoir une grande violence entre communautés juives et communautés musulmanes, et division à l'intérieur de chacune des communautés, division des spectateurs, parce que du coup ça produit les gens qui ne sont pas de ces confessions comme spectateurs, et eux-mêmes seront sommés de prendre parti. Autrement dit, le fait de n'avoir pas fait confiance à l'espace délibératif et au savoir minimum celui qui est produit par les institutions de savoir de la République, eh bien, risque de produire une quasi-guerre civile d'un autre ordre. On a la quasi-guerre civile de l'état d'urgence, des manifestations avec gaz lacrymogène lancés comme des bombes, enfin, des jarrets qui s'en vont, des flashballs qui en mènent un œil, des choses qui rebondissent sur le corps. Enfin, bon, on a toute cette part-là qui produit de la quasi-guerre civile, mais on a une quasi-guerre civile aussi du côté de l'incapacité à maintenir eh bien, une capacité à savoir pourquoi les gens peuvent ou ne peuvent pas vivre ensemble et à essayer effectivement de maintenir ce fameux vivre ensemble qui est juste devenu de la rhétorique. Voilà, vivre ensemble, c'est partout, c'est dans tous les textes de sémantique institutionnelle. Et par contre, du point de vue de l'efficacité réelle, eh bien, c'est quelque chose d'absent. Donc cet article 7, eh bien, est nécessaire à nouveau à énoncer ce qui suppose ou la présence ou le souvenir du despotisme, peut-être un peu des deux. Le souvenir, parce que malgré tout, c'est jamais très loin. Hein, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, c'est pas si loin que ça. Donc le souvenir récent du despotisme, pour certains, c'est vrai. Et puis la présence du despotisme, oui, je crois que c'est vrai aussi. Je crois qu'on peut choisir d'attiser plutôt que d'apaiser certaines situations qui sont des situations non pas de conflit démocratique, mais de, je le répète, quasi-guerre civile dans l'incapacité à entendre les questions. Du côté du non-dit, ben, du côté du religieux, on est quand même dans quelque chose d'extrême dans le non-dit, parce qu'on a une situation française qui est absolument reliée à l'ensemble du monde. Et on a eu des événements extrêmement dramatiques, tragiques, qui s'appellent des événements de terrorisme très violents, il y a peu, hein, c'était en 2015, janvier et novembre 2015, et que ces événements ont produit un effroi dans l'ensemble de la population qui, du coup, est prête à troquer la dimension de liberté et d'égalité contre de la sécurité. Et que ça a été l'énoncé des pouvoirs publics, troquer l'un pour l'autre. Or, cette question de la sécurité, eh bien, c'est une question qui, bien sûr, déborde l'espace français. À savoir, il s'agit de pouvoir débattre de la manière dont la France prend position dans l'ensemble de la conflictualité mondiale. Et de ce point de vue-là, eh bien, le monde est en conflit sans être démocrate, puisque ces conflits sont tous guerriers. Il n'y a pas de véritable débat à l'ONU. Il y a des rapports de force à l'ONU, mais il n'y a pas d'élaboration, vraiment. Donc on est dans une situation guerrière où Daesh reçoit des armes par l'Arabie saoudite, armes vendues par la France à l'Arabie saoudite. Donc on a toutes sortes de choses complexes qui font que, eh bien, oui, il y a un islamisme radical qui est nourri par l'espace français, que ce soit en France ou que ce soit à l'extérieur, et qu'il y a là quelque chose qui a à voir avec la position des démocraties occidentales en général, qui choisissent l'échange guimali, c'est-à-dire âpre, de la vente d'armes, plutôt que de choisir l'échange coulant avec d'autres pays. Et donc il y a quelque chose qui se joue, qui est extrêmement complexe, et pour pouvoir s'autoriser à être dans cet échange-là avec des islamistes politiques, on invente une rhétorique qui est celle de l'islamisme modéré. Les gens qui sont spécialistes de l'islam, en tout cas les femmes qui sont spécialistes de l'islam, considèrent qu'il n'y a pas d'islamisme modéré, qu'il y a un islamisme belligène et un islamisme politique, que l'islamisme belligène souhaite prendre le pouvoir par la guerre et que les autres ont la compétence à penser qu'il ne peut plus être pris par la guerre mais qu'il peut désormais être installé par les élections. Ce qui fait qu'on a une conception de la démocratie réduite au fait électoral. Cette réduction de la démocratie au fait électoral, c'est une manière de dévoyer la notion de démocratie. Parce que la démocratie ne peut pas être un fait électoral. Et quand on promet des élections en Syrie, dans l'état actuel de la Syrie, c'est une dérision. Car on ne peut pas organiser des élections sur un terreau aussi détruit. Et donc il n'y a pas de possibilité, maintenant qu'on a détruit physiquement et moralement l'ensemble des démocrates syriens, d'organiser des soi-disant élections démocratiques. Donc il y a quelque chose où la démocratie devient un outil technique, un outil qu'on dirait dans la langue française technocratique. C'est un outil d'organiser des élections pour faire croire à la démocratie. Et du côté de la manière dont les régimes occidentaux ont pris position au moment de l'arrivée d'Erdogan dans le champ politique d'une manière majoritaire, eh bien, il a été qualifié d'islamiste modéré. Et donc, comme on pourrait parler de démocrate chrétien. Alors, pour les femmes en question dont je vous parle, les spécialistes de l'islam, ce qu'elles disent, c'est que, en fait, il ne peut pas y avoir d'islamisme modéré parce que cette modération, elle supposerait de ne plus être dans un rapport à Dieu. Or, l'islamisme, sa particularité, c'est d'être une théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est le garant du pouvoir. Et que soit Dieu est le garant du pouvoir et on est dans l'islamisme, et ça ne peut pas être modéré, puisque dans ces cas-là, il n'y a plus de liberté individuelle subjective, plus d'égalité des droits, etc. Plus de liberté, tout simplement. Soit on n'est plus dans l'islamisme, et ça supposerait qu'il y a des partis conservateurs à position morale issue de l'islam. Mais que ce n'est pas le cas, que ce sont des partis théocratiques. Et que ces partis théocratiques ont pour particularité, effectivement, d'opprimer les femmes. Et que la question du voile qui a été tellement déployée, discutée, etc., a été, selon certaines personnes, comme par exemple Sophie Bessis, mal discutée. Parce que en tant qu'objet qui est la manière dont le patriarcat dans ces pays-là, ici ça serait autrement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patriarcat, ça veut dire qu'il ne choisit pas les mêmes objets, par la domination sur les femmes de cet objet voile, et donc il faut être contre le voile suggestion et enfermement, mais que pour autant être contre le voile suggestion et enfermement et donc contre le patriarcat, ce n'est pas s'en prendre aux femmes voilées. Et donc il faut distinguer la position de principe antithéocratique, antipatriarcale, donc être contre le voile, mais quand il y a des femmes voilées, essayer de comprendre eh ben, pourquoi elles sont voilées, quel sens ça peut prendre, quel est le rapport à la tradition, quel est le rapport à la religion, en ayant bien conscience que la puissance de l'islamisme sur cette question, c'est d'avoir réussi à faire passer le symbole du voile de la tradition à la religion. Et qu'aujourd'hui, mais quand il y a du fait religieux, eh bien on ne sait pas si on doit être dans la logique du libre exercice des cultes ou si on doit être dans le symbole de l'islamisme politique. Et ces questions-là, qui sont des questions lourdes, difficiles, eh bien elles sont très rarement ouvertes d'une manière un peu claire, avec des débats un peu clairs, pour savoir quand est-ce qu'on respecte les principes démocratiques. Et oui, ça fait peser effectivement une menace sur l'éthos démocratique quand ça n'est pas pris en charge. Mais souvenez-vous, qu'est-ce que c'est qu'être démocrate ? C'est assumer l'incertitude de ce qui nous arrive. Et assumer l'incertitude de ce qui nous arrive, c'est avoir la responsabilité de ce qui arrive par nous. Et en ce qui concerne cette question du libre exercice des cultes et des positions à avoir vis-à-vis des différents cultes de manière à inclure sans naïveté, eh bien le débat a toujours été extrêmement malmené ou peu mené. Et finalement, eh bien on est à nouveau dans cette affaire de cuquéon qu'on n'agite pas. Il y a des gens foncièrement contre le voile et finalement on ne peut pas en discuter. Il y a des gens qui sont foncièrement pour une liberté de culte et ils ne veulent pas reconnaître que ce signe peut être aussi un signe d'islamisme radical, et donc on a quelque chose qui est bloqué. Voilà. Et ce qui fait que ce libre exercice des cultes, eh bien, il est lui-même subverti par une situation qui est une situation où il n'y a plus de possibilité, effectivement, d'agencer les différents groupes. Malheur à ceux, disait Saint-Just, qui vivent dans un temps où l'on persuade par la finesse de l'esprit, et où l'homme ingénu au milieu des factions déliées est trouvé criminel parce qu'il ne peut comprendre le crime. Alors, toute délibération cesse, parce que dans son résultat, on ne trouve plus et celui qui avait raison et celui qui était dans l'erreur, mais celui qui était le plus insolent et celui qui était le plus timide. Toute délibération cessant sur l'intérêt public, les volontés sont substituées au droit. Voilà la tyrannie. Il me semble qu'on est au cœur de cette question, avec des images qui sont quand même assez troublantes, images prises par des photographes, là en l'occurrence, qui ont donné des images à la revue Vacarme. Enfin, la question de l'unité, Eh bien, c'est la question de l'unité des différentes luttes. Je vous ai parlé un peu plus longuement de la question éducative. On est dans un lieu d'intersection entre espace public et université, dans un moment de lutte à l'intérieur de l'université. Mais un des enjeux importants en ce moment, c'est la manière dont on accueille les étrangers, réfugiés syriens, réfugiés d'autres parties du monde, l'Érythrée, réfugiés d'Afghanistan, et dont on accueille des migrants ordinaires qui ont, comme disent ceux qui défendent la position migrante, la particularité d'être des êtres humains, c'est-à-dire des nomades, parce que les êtres humains se sont toujours dispersés à la surface de la Terre et qu'on ne pourra pas empêcher les êtres humains de circuler. Donc il y a quelque chose qui se joue sur la manière dont on accepte, en tant que démocrate, aujourd'hui, de recevoir et de penser cette circulation. Penser cette circulation, ça veut dire être capable de savoir agir avec ce qui nous arrive, au sens ce, C-E-U-X, c'est pas simplement CE cette fois-ci, et ce qui nous arrive, de savoir comment on va pouvoir, avec eux, maintenir une certaine conception de l'équité, de l'égalité, de l'humanité, de l'humanisation, du fameux contrôle de la cruauté. Aujourd'hui, je dirais que c'est le lieu le plus terrifiant du point de vue de l'absence de contrôle de la cruauté. À côté, nos affaires de flashball et même de ZAD, c'est rien. On a des gens qui arrivent et qui vivent sur des cartons au cœur de la ville pendant des mois, pendant l'hiver. On a des gens qui sont refoulés aux frontières alors qu'ils ne sont pas encore des adultes. On a des gens qui sont incriminés pour vouloir aider ces personnes-là. Et d'une manière concomitante, on organise sur le sol français des cérémonies pour encore honorer les descendants des justes, hein, ceux qui ont accepté et pris le risque de sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on incrimine ceux qui accueillent des Érythréens à la frontière italienne ou à la frontière en Haute-Savoie. Pendant ce temps-là, les forces qui sont quand même, à mon sens, les forces antidémocratiques par excellence, comme la génération identitaire que vous connaissez bien avec la mosquée de Poitiers, qui s'organisent à l'échelle européenne, voire mondiale, pour se militariser. Et donc, non seulement on n'évite pas la guerre civile, mais on risque de ne pas éviter la guerre tout court entre démocraties, à l'intérieur des démocraties, d'une manière transfrontalière ou transnationale. Donc, les menaces sont réelles. Et je crois que ce qu'il faut interroger désormais, c'est nos défauts de stratégie pour ceux qui souhaitent répondre à ces menaces, et donc interroger quelles seraient aujourd'hui nos positions stratégiques pour pouvoir ne plus laisser faire, car laisser faire, c'est renoncer nous-mêmes à notre statut de citoyen démocrate. Merci beaucoup.
Est ouvert à la discussion.
Ma question, c'était comment est-ce que vous pouvez essayer de décrire, parce que je vois, mais je ne sais pas en parler, le contournement de la démocratie qui fait que le pouvoir qui agit dans la cruauté le fait au nom de la démocratie. Oui, c'est au nom de la démocratie, et justement pour restituer alors les mots qu'on a, ordre contre les violences supposées des bloqueurs ou autres zadistes.
Okay. Alors, la question que vous posez est celle de la, justement, de la structure actuelle du droit ou de la manière dont on fait usage du droit. Pendant la période révolutionnaire française, puisque c'est celle que je connais le mieux quand même en étant spécialiste de la Révolution française, quelqu'un comme Robespierre affirme une loi tyrannique n'est pas une loi. C'est-à-dire que s'il y a de la tyrannie dans le légalisme, alors c'est une tyrannie légale lisée par les rapports de force institués par le pouvoir en place. Et que de ce point de vue-là, on confond la notion de droit ou on la subvertit pour la ramener à des purs rapports de force. Et c'est un débat extrêmement important sur qu'est-ce qu'on entend par le droit et les droits. Et donc d'un côté, on a l'idée que le droit en son cœur, et c'est la position de Carl Schmitt qui a été ensuite assez bien analysée par George Wagenbein, en son cœur, c'est un rapport de force, et donc il y a quelque chose, on pourrait dire, de pourri au royaume du Danemark, parce que le droit, c'est toujours d'abord un rapport de force habillé par une idéologie. Du point de vue des révolutionnaires français et de ceux qui défendent les points de vue révolutionnaires, même s'ils peuvent céder au fur et à mesure du mouvement, mais disons, du point de vue des principes, ils considèrent qu'il n'y a de droit que dans les productions légales qui permettent de résister à l'oppression. Et c'est quelque chose qui est inscrit d'emblée par Seyès dans son exposition raisonnée sur les droits de l'homme, donc 21 juillet 1789, où en fait il prépare la déclaration des droits avec d'autres dans la commission, ils ont beaucoup de mal, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais en tout cas lui il argumente, et ça va servir d'argumentation pour créer le droit de résistance à l'oppression, il affirme que celui qui est plus fort et qui opprime le plus faible ne produit pas pour autant de droits, et que par contre celui qui se révolte et produit une résistance à cette domination, parce qu'il ressent, alors il y a tout un naturalisme chez Seyès, donc on ne peut pas le récupérer de manière linéaire, qui résiste parce qu'il ressent dans son corps qu'il est opprimé, celui-là produira toujours un droit. Et donc il y a une conception du droit qui est complètement inverse. C'est-à-dire le rapport de force n'en produit pas, et le rapport de résistance à l'oppression en produit. Cette résistance à l'oppression, c'est le fait qu'on ne produit pas des droits a priori, on produit des droits pour protéger. Et donc le droit ne peut pas être oppressif, il ne peut être que protecteur. Et si vous avez des formes de droits qui ne sont pas protectrices, eh bien ce ne sont plus des droits. Aujourd'hui, on a un usage du droit comme légalisme pour opprimer. Et le sens de la loi travail, c'est absolument ça. Donc on est dans une situation où on a perverti la notion de droit. Et on est toujours dans le même dilemme, c'est est-ce qu'on abandonne la notion ou est-ce qu'on la reconquiert? Et si on la reconquiert, on est obligé de développer un certain nombre de conflits philosophiques sur la notion de liberté. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement la question du droit qui est complexe, c'est la notion de liberté. Parce qu'il y a toujours eu plusieurs conceptions de la liberté, disons que je vais en développer au moins deux, il y en a une qui considère que l'autre, pour l'exercice de ma propre liberté, est toujours un obstacle. Et donc, ma liberté doit être illimitée. Et donc, les gens doivent s'écarter les uns des autres. Parce que l'autre devient un danger. S'il peut vous tuer parce qu'il a besoin d'aller plus vite vers ce qu'il convoite, il vous tuera. Et au nom de sa liberté, c'est ma liberté. Voilà. Et c'est une conception qui produit la liberté illimitée du commerce des grains. Possibilité de s'enrichir par le commerce des grains sans tenir compte du droit à l'existence des individus même qui le produisent et qui ne peuvent plus accéder au marché, donc qui ne peuvent plus se nourrir. Donc il y a quelque chose là qui a à voir avec l'introduction du libéralisme économique au XVIIIe siècle. Turgot en 1775, une guerre des farines qui est en fait une manière de résister à ce pouvoir illimité du commerce des grains, et réinstauration de ce pouvoir illimité du commerce des grains en 1789 par les libéraux, alors qu'on a déjà ratifier la déclaration des droits qui est contraire à ce pouvoir illimité. Donc on a des conflits de droits qui habitent la révolution et qui habitent toujours les sociétés. L'autre conception de la liberté, c'est l'affirmation que la liberté n'existe que quand elle n'est pas domination, et donc elle doit être minimalement réciproque, ce qui est inscrit dans l'idée le droit des uns s'arrête ou commence celui des autres. Et donc c'est une contrainte réciproque. Et c'est un rapport donc de réciprocité entre les individus qui fabrique la fameuse unité du Kukeon. Cette conception-là peut être approfondie en affirmant que je suis d'autant plus libre que les autres sont libres. Autrement dit, que toute présence de personnes dominées diminue ma liberté, et plus il y a de gens vraiment libres, et plus ma liberté en est augmentée. Donc c'est une position exponentielle de la liberté, où l'autre est le moyen de sa propre liberté. Donc c'est vraiment l'envers de l'autre conception. Et aujourd'hui, eh bien, le combat il se joue en partie dans cette question de la définition de la liberté et de la définition du droit. Et donc, du côté du pouvoir, il n'y a jamais d'élaboration, de dire « nous, notre conception de la liberté, ce serait ceci, cela », parce que c'est quand même la liberté des riches contre l'oppression des pauvres. On est quand même dans quelque chose de tellement évident que c'est impossible à dire d'une manière aussi crue. Mais c'est quand même ça qui, au bout du compte, est dit, hein, avec les histoires de chemises, de t-shirts et tout autre énoncé très méprisant, au bout du compte. Et donc, il y a quelque chose qui se joue où, dans une conception où le droit, c'est un légalisme pour la liberté des puissants, eh bien, on peut tout à fait affirmer qu'effectivement, on ne va quand même pas laisser faire les humbles de vouloir se révolter, de vouloir inventer des régimes de vie différents de ceux qui sont imposés par le néolibéralisme. De ce point de vue-là, ce qui se passe sur la ZAD, le fait qu'on n'ait pas voulu négocier tout de suite pour éviter cette guerre civile effective, là, hein, même si c'est une poche, c'est quand même une guerre civile effective. On n'a pas voulu négocier parce qu'on n'a pas voulu reconnaître la possibilité pour des individus de ne pas mettre au premier plan leur individualité, mais de mettre au premier plan leur désir de sujet collectif. Et c'est là-dessus qu'on fait la guerre. Ce n'est pas sur les mètres carrés qui concernent Notre-Dame-des-Landes, puisque là, la question est plus ou moins réglée, puisqu'on est prêt à les laisser si les gens réclament des propriétés individuelles et des projets, finalement, de petits artisans individuels ou paysans individuels. Et donc, c'est la question de la place de l'individu dans l'imaginaire social.
Merci beaucoup pour votre intervention qui m'a passionné. Je voulais rebondir sur le tout début de votre exposé sur l'école, l'éducation. Et donc, c'était plutôt des remarques à soumettre au collectif sur ce qui me semblait être effectivement un recul peut-être marqué ces dernières années, pas seulement cette année, mais ces dernières années sur la démarche ou le mouvement, le processus de démocratisation de l'école. Je vais essayer de le réhistoriciser un tout petit peu. Il me semble quand même que dans l'après-guerre et particulièrement dans les années 60 jusqu'aux années 90 à peu près, il y a eu quand même dans les différentes alternances politiques un mouvement allant à peu près dans le même sens d'une ouverture et d'une démocratisation de l'école, dont on sait qu'elle n'a pas abouti et qu'elle était plutôt une massification. Mais quand même, il y a eu un geste assumé de reconduire des politiques qui visaient à cette démocratisation. Ce qui me paraît nouveau dans, alors pas uniquement depuis Macron, on l'a déjà par exemple avec les années 2000 sous Sarkozy, avec le contournement de la carte scolaire, je repense à tout ce que vous disiez sur le renoncement à la mixité ou le renoncement à se côtoyer ou à faire se côtoyer des groupes sociaux. Mais c'est vrai qu'en une dizaine d'années, alors en vous écoutant, j'ai listé quelques-uns des signes que je soumets à la discussion, mais qui me paraissent attester ce renoncement à ce processus par rapport à ce processus démocratique. C'est par exemple l'échec de l'inclusion des personnes handicapées. Par exemple, je travaille là-dessus, on a énormément de personnes handicapées qui reviennent en institution spécialisée parce qu'elles ne trouvent pas sa place dans ce collectif scolaire où on a décidé de les envoyer depuis la loi de 2005 pour l'égalité des chances. C'est la montée en puissance des dispositifs qui accueillent finalement le gros des classes populaires en échec à la périphérie de l'institution scolaire. Et là encore, cette habituation à la non-mixité finalement dans l'école, c'est ce qu'on a appris ce matin, les fiches de Blanquer qui arrivent de manière verticale à l'ancienne, de manière complètement caricaturale. On verra ce que ça produit comme échange et comme débat sur la manière de lire, écrire et compter. Donc là, on a un exemple ce matin assez saisissant et intéressant. C'est aussi, peut-être pour finir, le fait qu'on s'habitue finalement à la position de la France très inégalitaire par rapport au parcours scolaire. On sait que la France est championne de l'OCDE sur les inégalités scolaires en fonction de l'origine sociale. C'est devenu quelque chose de courant et on a, dans ces derniers mois, aucun discours significatif pour renouer avec un discours, une approche offensive pour démocratiser l'école. Donc en vous écoutant au tout début notamment, je me disais qu'effectivement, là il y avait une rupture. Alors peut-être que là, effectivement, ce qui s'annonce avec le lycée et la sélection à l'université, c'est évidemment un des points peut-être paroxystiques de ce mouvement, c'est le renoncement effectif par rapport à ces 50 dernières années qui étaient quand même marquées par un volontarisme autour de cette question.
Du coup, j'ai pas grand chose à répondre, juste je vais faire de la pub. L'avant-dernier numéro de Vacarme porte sur l'éducation, et donc il y a eu tout un travail collectif fait autour de ces nouvelles lois, et en particulier par deux enseignants du secondaire de la revue, Valentin Chemery et Vincent Casanova, Vincent Casanova ayant été partie prenante des micro-lycées, donc des situations de remédiation, etc. Oui, voilà, donc j'aurais tendance à dire que je renvoie, non pas aux experts et spécialistes, mais quand même à une réflexion un peu poussée. Je crois que ce qui me semble vraiment difficile aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande confusion, y compris chez les enseignants, qui finalement ne savent plus très bien quelle position prendre et qui subissent de plein fouet ce que moi j'appelle le relativisme contemporain. C'est-à-dire que des débats sur l'école, il y en a eu plein, mais l'élaboration des points de désaccord, il y en a eu peu. Et donc il y a des camps retranchés avec des positions qui sont qualifiées soit d'archaïque, l'école de grand-papa, soit de pédagogisme quand il s'agit de ceux qui prônent un certain rapport, un certain mode, disons, d'usage de l'école. Puis évidemment toutes les questions qui fâchent, dites sensibles, qui viennent diviser les uns les autres, mais une très grande difficulté à pouvoir après opter vers quelque chose, et une très grande solitude pour ceux qui effectivement chercheraient à penser par eux-mêmes leur position d'enseignant. Et je pense que ça, c'est un symptôme de ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire que l'éducation n'est plus dans cette position d'objet sacré qui suppose d'être en partie considéré comme soustrait au débat et en même temps lieu fondateur. Voilà. Alors, pour qu'il soit soustrait au débat, évidemment, ça supposera un consensus sur qu'est-ce que l'école a comme place, quel rôle elle doit jouer, etc. Et qu'il y ait effectivement un véritable espace démocratique. Sinon, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Si on soustrait au débat l'école à un moment où on n'est presque plus en démocratie, on est cuit. Mais il y a quelque chose qui fait symptôme dans ce lieu-là, en France en particulier. Après, sur la question des inégalités, il y a beaucoup de variables qui sont manquées par l'OCDE, puisque c'est l'OCDE qui les produit, hein. À savoir que les lieux français sont quand même des lieux qui restent beaucoup plus communs que par exemple en Allemagne ou même qu'aux États-Unis. Et donc si on écarte toute la dimension classement à l'intérieur de ceux qui peuvent aller au lycée ou qui ne peuvent pas y aller, etc., effectivement on a des inégalités particulièrement importantes. Ce qui est très troublant pour l'espace français, c'est qu'en fait, on a un niveau qui est plutôt tout à fait correct à la sortie du secondaire et très faible à la sortie du supérieur. Et donc, en fait, contrairement à ce qu'on nous raconte, on manque de gens extrêmement qualifiés. Et on ne sait pas faire des gens qualifiés. Quoi faire des gens qualifiés ? Hein, tous les docteurs qu'on forme, ils sont quand même sur le carreau, alors qu'ils sont quand même très compétents pour faire aussi autre chose que de l'enseignement et de la recherche. Mais aujourd'hui, il n'est pas imaginable quasiment d'embaucher un docteur en histoire ailleurs que dans l'enseignement et la recherche. Et donc il y a quelque chose aussi de l'imaginaire social du mélange qui est manquant en France. Parce que finalement, c'est la question du mélange, de pouvoir accueillir un historien dans un lieu qui n'est pas un lieu d'histoire. Par exemple, hein, pour être un linguiste, je ne sais pas. Oui.
Alors moi, je voulais vous demander votre référence sur... C'était une ritournelle de révolutionnaire, je crois, sur Raccourcir les géants, parce que ça m'évoque, je ne sais pas si vous avez vu le Bertina des châteaux qui brûlent, son dernier ouvrage, qui est sur la séquestration d'un secrétaire d'État et séquestration... Et donc comme ça l'idée, et il y a tout un fil autour de Don Quichotte et des géants clairement autour de ça. Là, je reprenais ce passage, ce sont des géants parce qu'on est à genoux, enfin, et je pense que voilà, c'est une référence directe à ça. Et puis et après j'ai une question, c'est toujours un peu dans le même esprit que la démocratie tout à l'heure, quand vous avez évoqué l'idée que quand on bloquait les lieux, ça ne permet pas au conflit de se déployer. Je pensais aux étudiants et étudiantes en ce moment. Pour eux, c'est précisément quand même le moyen de faire émerger le conflit, en tout cas de le rendre visible. Je me demande s'il y a un autre espace. Alors ça renvoie à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas d'autre espace. De la même manière, je me disais comment... Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la fermeture administrative, c'est un moyen d'éviter aussi ça, hein, ça arrange le pouvoir, etc. Et en même temps, la défense qui est faite, c'est de dire on ferme pour ne pas générer de la cruauté ou de la violence, etc. Enfin, toujours là, ces modes de retournement, on a l'impression que c'est déjà... la réponse est déjà donnée, donc ça me paraît difficile.
Alors la question du blocage, il y a deux types de blocage. Il y a le blocage pour occuper et organiser les fameuses activités alternatives. Et il y a des blocages qui bloquent simplement, voilà, où il ne se passe rien, où l'université devient un désert. Et je pense que ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, quand on occupe, il se passe quelque chose, on veut le conflit, ça circule d'une université à l'autre. Enfin, bon, voilà. Je pense que c'est moins le cas quand c'est juste bloqué. Et sur l'usage de ne pas développer la cruauté, c'est pas tellement la cruauté, c'est l'atteinte aux biens qui préoccupe les administrateurs. C'est la dégradation, ce qu'on appelle la dégradation. Et je pense qu'on est dans quelque chose peut-être d'analogue à la question de Victor Hugo quand il déplore, tout en essayant de comprendre, pourquoi le peuple a lui-même brûlé des bibliothèques. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se joue dans la désaffection à l'égard des objets sacrés quand il y a une triche sur l'usage du sacré? Et il me semble que là, c'est peut-être cette perversion de nos lieux communs de la démocratie qui font qu'on a énormément de mal à répondre. C'est beaucoup plus difficile de répondre à des pervers que de répondre à des névrosés. Donc, on aimerait mieux avoir des névrosés en face de nous, mais on a des pervers. Et donc, il y a quelque chose à apprendre, parce que eux qu'on tourne, il faut nous être plus rusés, mais c'est très difficile. Voilà. Après, géant et à genoux, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a une longue histoire, hein, c'est de la rhétorique. Et pour l'énoncé ritournelle, c'est dans le livre de Michel Vauvel, La mentalité révolutionnaire. Pour l'énoncé à retrouver après la référence exacte, honnêtement, je ne me souviens plus.
Merci pour votre exposé. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit sur la ZAD. C'est vrai que ça a surpris tout le monde, cette polarisation de l'État contre toute organisation collective, alors même que dans les campagnes ou ailleurs, il y a profusion d'organisations collectives légales. Et notamment l'Ouest, donc le secteur nantais, mais ici aussi, et à l'origine des coopératives, des mutuelles, tout un tas de formes d'organisation collective qui ont été militantes, qui le sont moins. Et je voudrais savoir ce que vous pensiez de la notion qui est très rebattue aujourd'hui de commun.
Alors, pour revenir sur le premier point, sur il y a une histoire de la mutualité, c'est même le fondement de l'histoire du mouvement ouvrier, hein, la mutualité, des coopératives, etc. Mais je pense que tout vise à délégitimer cette forme. Parce que quand la question est posée là, au moment des entretiens avec Macron, il ne répond pas sur l'actualité immédiate de la légitimité de cette forme dans la négociation. Il dit « mais il ne l'avait pas fait ». Donc, en fait, il joue à chat perché. C'est-à-dire qu'on lui dit pourquoi vous n'acceptez pas qu'il y ait des propositions qui soient justement sous la forme de commun. Et il répond mais ils n'ont pas demandé à fabriquer, ils n'ont pas eux-mêmes été produire des coopératives ou des SCOP, etc. Donc, il y a quelque chose où l'objectif, c'est à la fois de dire ils ne sont pas dans les règles de droit, mais parmi les règles de droit que nous, on va promouvoir, il n'y aura pas celle-là. Ils auraient pu le faire avant, ils ne l'ont pas fait, c'est pas celle qu'on promeut. Voilà. Donc du coup, évidemment, on est toujours dans la même question du contournement, etc. Après, sur la question du commun, des communs, du livre de Dardot et Laval, commun, plutôt que justement les communs, etc. Je pense que c'est un objet qui est devenu à la fois très banal et en même temps très peu débattu sur le fond. Qui est de savoir quelle place prend le commun, ou enfin ce commun d'Eduardo Laval, ou les communs des économistes, ou les communs des pirates. Donc il y a différentes manières d'en faire usage. Chez Dardot et Laval, c'est le commun, le principe du commun, à la place de l'État. Et donc il y a quelque chose de très troublant, parce qu'il n'y a plus de normes qui permettent de savoir comment on stabilise ce commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position qui puisse permettre de ne pas considérer qu'il est constamment fluide, et à ce moment-là, comment le faire vivre. Voilà. Et je dirais que le livre a beau être énorme, cette part-là de comment il est stabilisable à partir du moment où on se débarrasse du droit tel qu'il a été inventé, par exemple, dans la Révolution française, j'évoquais Sieyès, mais c'est l'ensemble de la Révolution qui réfléchit dans ces termes. Et donc, il y a quelque chose où ils ont écarté et la question de l'État et la question d'une norme juridique au-dessus des normes positives. Donc, qu'elle s'appelle droit naturel ou autre chose. Mais en tout cas, quelque chose qui permettrait de stabiliser. Parce que si on ne stabilise pas, bah, ça réinstalle des rapports de force. Ces rapports de force, ils sont visibles dans tous les espaces d'expérimentation aujourd'hui de commun, qui sont des expérimentations plus ou moins politiques. La plus facile à observer étant ce qu'on appelle l'habitat commun ou l'habitat partagé. Cet habitat partagé, il est donc souvent impulsé par certaines municipalités en tant qu'elle offre des parcelles qui pourront être élaborées sur le mode de l'habitat partagé. C'était vrai à Lille-Saint-Denis, c'est vrai un petit peu à Paris. Je sais que ça a eu lieu beaucoup plus en Allemagne. En tout cas, c'est quelque chose maintenant qui est documenté par les sciences sociales. Eh bien, dans ces moments, enfin, la production de ces habitats partagés, il y a énormément de ritournelles qui circulent et il n'y a pas beaucoup d'élaborations singulières. Et au bout du compte, c'est ceux qui portent la ritournelle qui gagnent en termes de rapport de force. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que le commun, c'est aussi le sens commun. Voilà, il y a aussi quelque chose qui a partie liée. Après, il y a ceux qui considèrent que ce commun, compte tenu du temps que ça prend, se réunir, décider, délibérer, y compris sur des choses parfois très banales, c'est quelque chose qui ne permet plus de laisser la place à d'autres parts de la vie et à cette fameuse félicité. Et donc, chez Saint-Just, par exemple, parce que moi je circule entre la Révolution et l'aujourd'hui, il dit voilà, les gens se sont lassés des assemblées. Et c'est à partir du moment où ils se sont lassés des assemblées qu'ils ont laissé émerger ce qu'on appelle l'État. Et donc il faut trouver une manière de trouver, enfin de ne pas démultiplier cette question du commun, parce que sinon on passera le premier jour, c'est la réunion pour l'hôpital, le deuxième pour l'école, le troisième pour la maison, le quatrième pour les bancs dans la cité, et il ne restera rien pour la vie, même pour le travail. Donc il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça d'affirmer qu'on peut se séparer des autres modes d'institutionnalisation et du travail et des richesses et des circulations, etc. Donc il y a des gens qui disent le commun c'est une part, et c'est une part là où l'État disparaît, il faut reprendre les choses en main pour ne pas le laisser au privé. Et donc c'est une espèce de parade intermédiaire. Voilà. Et donc c'est une autre conception. Et cette parade intermédiaire, elle peut être considérée comme un pis-aller ou comme ce qu'il faut atteindre parce qu'il y a certains lieux qui seraient adéquats au commun. Après, tout le monde sait qu'il n'y a rien de pire qu'une réunion de copropriétaires. Donc, moi, je veux bien qu'on généralise le principe de ce genre de choses, mais j'en suis un peu inquiète. Alors, après, il y a ceux qui considèrent que, en fait, ce qui serait intéressant à penser aujourd'hui, c'est l'articulation entre ce qui reviendrait à l'État parce qu'il n'y a aucune communauté qui pourrait se permettre de se le payer, entre guillemets, se le payer, à savoir la santé, l'éducation, c'est-à-dire ce qui est au fondement du pacte démocratique, et que donc il faut maintenir l'État, non pas comme structure autoritaire de pouvoir, donc c'est plus l'État police, justice, moi je suis pour, mais enfin bon. C'est un débat qui est très vaste, mais bon, disons que c'est l'État en tant qu'il est protecteur, parce qu'il va permettre une redistribution des choses nécessaires absolument et qui ne pourraient pas être redistribuées si on était dans des plus petites communautés. Et puis, ce qui reviendrait au commun, ce serait ce qui justement peut être géré par le communautaire. Et il faudrait laisser de la place pour le privé, pour une certaine inventivité, parce que dans le commun, il y a du sens commun ou il y a du conformisme. Donc la singularité y est quand même plutôt opprimée. Et donc il y a quelque chose à penser de ces différentes choses, mais ce n'est pas pour moi la panacée universelle qui permet de résoudre les problèmes actuels. Voilà. Par contre, il y a quelque chose dans la pensée du commun qui permet de comprendre ce que c'est que la pensée de la délibération. Et que de ce point de vue-là, je dirais, y compris dans la Révolution française, on se pose la question de ce qu'est le bon volume de personnes à réunir territorialement et en termes de nombre d'habitants, pour fabriquer une commune, au sens de la commune, hein, Qu'est-ce que c'est qu'une commune ? C'est l'espace délibératif qui va permettre de prendre des décisions et de mener la route qu'on est en train d'ouvrir, de frayer le chemin de la vie, quoi. Et donc, c'est une question très importante, puisqu'on a affirmé que la démocratie ne pouvait se faire que dans des petites cités, que Athènes, c'était possible, mais que quand même, la France, c'était trop grand. Donc, au XVIIIe siècle, il y a des gens qui sont absolument contre l'idée qu'on délibère, parce qu'on est trop nombreux, on ne pourra pas le faire. Et du coup, il y a une pensée à avoir entre des communes dites injustes, hein, de 600 habitants, et qui peuvent être prises sur un territoire donc, qui rassemble 600 habitants, avec des lieux centraux, et comment on articule chacune des communes pour faire l'espace qu'on appelle l'unité républicaine. Et je trouve que là, il y a une pensée à ressaisir, c'est-à-dire que je trouve ça à la fois passionnant ce que dit Saint-Just, mais inabouti. Et donc là, il y a quelque chose à ressaisir dans les termes du commun, peut-être de Dardot et Laval, mais je pense que ça ne peut pas être satisfaisant pour tout. Voilà. Et donc je ne suis pas d'accord avec le côté panacée universel. Et même quand il s'agit des luttes pour les terres, parce que disent Dardot et Laval, c'est la lutte la plus importante aujourd'hui et elle réunit plus de monde qu'on n'en a jamais réuni. Oui, sans doute, mais comme elle n'est pas articulée à d'autres luttes, eh bien, il y a quelque chose qui est manquant du point de vue de, même de ce commun-là.
Merci. Il y a peut-être aussi un aspect intéressant sur la relativité de la propriété privée aussi absolue, etc., dans la question des communs.
Oui, si mais bien dit. Sûr. Il peut y avoir une gestion en commun de propriété privée. Hein. Ce n'est pas le fait de posséder les choses en commun qui fabrique le commun. Si vous voulez, on s'arrête là. Non, mais parce que c'est vrai, ça fait 2 heures. Non, ça fait quoi ? On a commencé à 2h15. Ça fait le temps qu'on avait dit. Sinon, on peut continuer à discuter. Hein. Moi, j'adore discuter, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Je suis là. Mon train, il est à 5h. Ça va, j'ai encore le temps.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le moment où vous évoquiez la capacité d'Emmanuel Macron à segmenter dans ses rapports avec la presse, notamment le fait qu'il puisse s'adresser, qu'il puisse accorder 2h30 à Mediapart, et puis après. Enfin,
et là, c'est pas le même public qui va regarder l'émission sur BFM TV. Enfin, là, en l'occurrence, c'était le cas de BFM. Bon. Mais c'est pas les mêmes publics aux différents horaires et aux différents, en fonction des différents intervieweurs. Et quand on avait l'allocution présidentielle, et c'était la même pour tous, ça ne segmentait pas le public. Tout le monde parlait de la même chose. Tandis que là, les gens ne vont pas se taper les 2h30 de 9 à 11, et puis les 1h15 de je ne sais pas quoi, etc. Donc chacun a regardé des choses différentes. Et il n'a pas parlé de la même manière à chacun. Quand je dis chacun, chaque groupe.
C'est loué par la presse.
Comment ?
Non,
je ne sais pas si ça a été loué par la presse. Moi, je ne l'ai pas lu, mais moi, j'ai en été choquée.
Il a associé Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, non ? Parce que ça s'est passé pour un tour de force aussi, il me semble.
Bah, moi, je ne comprends même pas que Plenel ait accepté, mais enfin, bon, ça, c'est pas, je ne suis pas à Mediapart. Hein. Mais je trouve ça absolument dingue du point de vue de la manipulation. C'est bien pire que ce qu'on avait avant. C'est parce qu'avant, on ne trouvait pas ça bien parce qu'on servait les plats au président sans rapport critique. Mais au moins, tout le monde avait le même objet à discuter. Alors c'est ça que je voulais dire. C'était aussi simple, ouais. Aussi bête que ça.
Bon.
Merci à vous.
Merci.
Bon et bon courage. Merci. Ah oui, je voulais vous indiquer un.